Does my food fill me in? And I don't know how it will end. Will it grow? Will it die? Wish I knew what you hide. Your words too sweet to be true. A monster lives within you. I don't want to learn more. I guess I'll stick to your
à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue. Vous avez la parole dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur le sort de Mohamed Bazoum, l'ancien président du Niger détenu depuis 2 ans et demi. Mais d'abord le journal international. Bonjour Julien Coquerel.
Bonjour Juan. À la une de ce journal, la guerre au Moyen-Orient qui se poursuit. Israël lance une offensive terrestre contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Après avoir frappé Téhéran ce matin, la riposte iranienne a de nouveau touché plusieurs pays du Golfe dans la nuit. Dans ce contexte, Donald Trump tente de faire pression sur la Chine et sur l'OTAN pour obtenir leur aide dans le déblocage du détroit d'Ormuz. Analyse de cette demande dans un instant. Dans ce journal également, le premier tour des élections municipales hier en France. Le suspense entier pour le second, notamment à Paris. Et puis la fin des Jeux paralympiques d'hiver en Italie. La cérémonie de clôture s'est tenue hier soir. Un mort à Abu Dhabi dans la chute d'un missile, la reprise partielle des vols à l'aéroport de Dubaï après leur interruption suite à une attaque de drones. Des drones et des missiles interceptés cette nuit dans le Golfe, notamment en Arabie Saoudite, un peu plus de 2 semaines après le début de la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump affirme être en discussion avec l'Iran, mais la riposte de Téhéran aux frappes israélo-américaines se poursuit. Elle continue de paralyser quasi totalement, notamment le détroit d'Ormuz, passage stratégique où transite 1/5 du pétrole produit dans le monde, et Donald Trump qui promet de le débloquer demande de l'aide. Il fait pression sur l'OTAN et sur la Chine pour obtenir leur participation à la sécurisation du détroit. Que comprendre de cet appel alors que Donald Trump lui-même affirmait hier avoir détruit 100% des capacités militaires iraniennes? Le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant suprême au sein de l'OTAN, estime qu'il faut y voir un signe de difficulté américaine.
Oui, je pense vraiment qu'il cherche de l'aide parce que ses chefs militaires ont dû lui expliquer que ça ne va pas être simple. Face à la dure réalité et à cette aptitude des gardiens de la Révolution de contrôler ce détroit et de laisser passer qui ils veulent, surtout ceux qui protègent leurs intérêts, en particulier l'exportation du pétrole vers la Chine, ils se retrouvent bien seuls. Hein, le président Trump, il aimerait bien nous, entre guillemets, nous embarquer dans ce qui risque d'être quand même une galère. Hein, c'est compliqué. Je trouve que c'est plutôt intelligent d'aller regarder du côté de la Chine, parce que la Chine a quand même des moyens de pression sur l'Iran. La Chine a besoin, de manière vitale, cruciale pour son activité économique, de pétrole. Et elle ne voit certainement pas d'un bon œil l'activité économique mondiale impactée durablement et lourdement par ce conflit, et en particulier par le blocage du détroit d'Ormuz. Donc, évidemment, la Chine se trouvera un petit peu entre deux chaises. Que répondra-t-elle ? On verra.
Jean-Paul Paloméros, joint par Elliot Vessier. La Chine qui affirme ce matin continuer d'être en discussion avec les États-Unis sur la visite prévue de Donald Trump fin mars et qu'il menace d'annuler. L'Australie et le Japon ont déjà refusé ce matin d'envoyer des navires. Du côté de l'Iran, Israël a de nouveau frappé Téhéran ce matin. L'armée israélienne qui annonce aussi avoir lancé des opérations terrestres limitées et ciblées dans le sud du Liban contre le Hezbollah. À la une également, la France aux urnes. Hier, le premier tour des élections municipales. Scrutin local très observé à l'échelle nationale à un an de la présidentielle. Un premier tour qui laisse le suspense entier pour le second dans plusieurs grandes villes et notamment à Paris, la capitale où Rachida Dati a dû faire face à la déception hier en arrivant deuxième. L'ancienne ministre de la Culture, candidate de la droite, à 25% des voix, loin derrière le socialiste Emmanuel Grégoire qui dépasse les 38%. Il s'est affiché satisfait hier soir, même si le dénouement est loin d'être écrit, Charlotte Urien-Tomaca.
C'était le scrutin parmi les plus attendus, mais aussi celui sur lequel il y a le plus de suspense. Paris basculera-t-elle à droite ? Car si Emmanuel Grégoire est arrivé en tête de ce premier tour, les jeux ne sont pas faits.
Vous avez voté pour la gauche qui peut gagner, vous avez voté pour la gauche qui veut gagner. Mais rien n'est fait. Dimanche prochain, la droite et l'extrême droite peuvent l'emporter à Paris.
Si le candidat de gauche a fait campagne sur une non-alliance avec LFI, les militants PS présents lors de cette soirée électorale estiment qu'il faut tendre la main sans fusionner les listes.
À tous ceux qui se reconnaissent dans le travail d'Emmanuel Grégoire et des écologistes, et leur dire que s'ils veulent garder Paris à gauche, c'est surtout le meilleur choix à faire.
Car l'inquiétude est là en fonction de la configuration du second tour. Sophia Chikirou, si elle se maintient, peut diviser l'électorat de gauche et favoriser la droite. Des militants LFI ont même improvisé une manifestation en marge de la soirée électorale du candidat de gauche, appelant au rassemblement.
Ne nous trahissez pas, unissez-vous. Ne nous trahissez pas, unissez-vous. Ne nous trahissez pas.
Charlotte Urien-Tomaca, hier soir, Sophia Chikirou a demandé à Emmanuel Grégoire un front antifasciste. Elle maintiendra sa liste faute d'une fusion. À droite, Rachida Dati est en difficulté alors que la candidate d'extrême droite, Sarah Knafo, s'est finalement qualifiée au second tour dans la nuit. Elle appelle ce matin l'ancienne ministre à accepter sa main tendue. Au tableau national, la France Insoumise et le Rassemblement National enregistrent des percées. Le président du RN, Jordan Bardella, dit tendre la main aux listes de droite sincère. Les négociations s'annoncent compliquées à gauche alors que le Parti Socialiste refuse par la voix d'Olivier Faure tout accord national avec LFI. RFI était en édition spéciale entre 7h10 et 7h30, temps universel pour décrypter ses résultats. C'est à réécouter sur RFI.fr. La France et Nicolas Sarkozy, de retour devant les juges aujourd'hui, l'ouverture du procès en appel de l'ancien président et de 10 autres prévenus dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy avait été condamné en première instance à une peine de 5 ans de prison, reconnu coupable d'avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher le régime libyen de Muammar Kadhafi pour obtenir des financements en échange de contreparties financières et diplomatiques. Il avait été incarcéré avant d'être remis en liberté 20 jours plus tard. Et puis c'est un autre procès doublement inédit qui s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises de Paris, le premier procès à se tenir en France concernant des faits de génocide et crimes contre l'humanité à l'encontre de la minorité religieuse yézidi en Syrie. La mort de milliers de yézidis et la réduction en esclavage de 6000 femmes et enfants par le groupe État islamique entre 2014 et 2017. Procès inédit à double titre car c'est aussi la première fois qu'un ressortissant français est poursuivi pour de tels crimes. L'accusé étant présumé mort, il sera jugé par défaut. 3 femmes et leurs 8 enfants seront notamment partie civile. Clémence Pectart est leur avocate. Pour elle, ce procès va permettre de donner une autre lecture de l'ampleur des crimes du groupe État islamique.
C'est vraiment une politique de persécution, une politique génocidaire qui a été mise en place et qui a notamment consisté à développer des persécutions différentes et genrées. C'est comme ça qu'a commencé l'attaque en août 2014 sur le mont Sinjar, avec des hommes exécutés en masse, des femmes perçues comme âgées, exécutées également, et puis ensuite des femmes qui ont été séparées des hommes, puis des femmes très trier entre elles, entre celles qui étaient considérées comme vierges et celles qui avaient déjà des enfants, et puis qui ont été soumises à cet asservissement et à ce marché aux esclaves. C'est vraiment ce qui a été mis en place. Elles ont ensuite été emmenées en Syrie et achetées, vendues à répétition et violées ensuite et soumises à toute forme de violence sexuelle et de violence aussi extrêmement grave, parfois affamées. Leurs enfants ont été battus, eux aussi affamés. Et c'est toute cette politique-là qui s'est abattue sur elles et qui a parfois duré de très longues années avant que soit elles puissent fuir, soit qu'elles soient libérées ou tout simplement rachetées par leur famille aux mains des combattants de l'État islamique qui les détenaient.
L'avocate Clémence Bechtart au micro de Laura Martel. Ce premier procès français pour des faits de génocide et de crimes contre l'humanité à l'encontre des yézidis qui doit se tenir à Paris jusqu'à vendredi. Et puis 10 jours de compétition et 600 athlètes de 55 pays qui se sont dit au revoir hier soir. C'en est fini des Jeux Paralympiques d'hiver de Milan Cortina. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour.
La cérémonie de clôture de cette 14e édition s'est tenue dans la soirée.
Oui, la fête a pris fin. Les deux chaudrons de Milan et de Cortina se sont éteints à l'issue d'un spectacle intitulé Le Souvenir Italien. Ce moment partagé entre les différents acteurs des Jeux, les différents territoires et communautés qui les ont accueillis, avec bien sûr la participation d'artistes en situation de handicap dans les différents tableaux. La parade des athlètes a été, elle, assez rapide, avec notamment la Chine en tête du tableau d'honneur, 44 médailles dont 15 en or, ou la Russie qui a marqué sa réintégration de plein droit dans des Jeux avec 12 médailles, alors que l'Ukraine, c'est à noter, n'a encore amené personne à cette clôture. Les porte-drapeaux français, Cécile Hernandez et Jordan Broisin, eux, ont eu droit à une double séquence, le défilé, mais aussi la participation à la cérémonie de passation du drapeau paralympique aux deux présidents des régions concernées par l'édition 2030 dans les Alpes françaises, Fabrice Pannekoek et Renaud Muselier. Et c'était la petite surprise, les skieurs Arthur Bauchet, 3 médailles, et Aurélie Richard, la Benjamine, aux 4 médailles, révélation de cette édition, les ont rejoints sur scène pour ce moment symbolique, accompagné d'une Marseillaise revisitée. Ce drapeau, comme le drapeau olympique, sera d'ailleurs en France dès cet après-midi à Champs-Rousses, la station de l'Isère, où la délégation tricolore arrivera aussi dans la journée pour une célébration.
Christophe Diremzian à Cortina, merci beaucoup, et c'est à vous, Juan Gomez.
Merci, bonne journée, Julien Coquelrouet, 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel, on revient dans 30 secondes.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
For most of my life, I've almost been aware. I've come so close, but never really won. Just when I thought I'd finally made it, I found myself back where I started from. Say I've given up, but I believe losing's just become a way of life for me. Losing wouldn't be so bad at all, but I'm always on the mountain when I fall. Then you came along, had me believing. For once in my life, my luck had finally changed. Now you say you're gonna leave me. Seems everything I do turns out the same. I've given up, but I believe losing's just become the way of life for me. Losing wouldn't be so bad at all, but I'm always on the mountain when I fall. Yeah, losing wouldn't be so bad at all, but I'm always mountain when I fall.
Vous avez entendu le type sur la bande. Il faut qu'on les mette à nouveau. Il faut la faire revivre. Les gars, on a trouvé cette station de radio pour une bonne raison. Ah ça oui, apprendre à faire le ménage. Franchement, j'en sais rien. Vous pensez que les gens écoutent beaucoup la radio à notre époque?
Principe Actif. Principe Actif à Évreux 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Les nains aux grosses fesses qui se tassent sur le trottoir d'en face. Face à de ton cerveau, pense à autre chose. Sous vêtements roses, cocaïne à grosse dose. J'place un accord parental, comme ça c'est fait. Zip dans une maison close, il en connaît les effets. Au point volant de sa Chevrolet volée. Après quelques heures de sport, de chant, madame en demande. Arrivé sur les lieux, il jette un coup de. Le lendemain matin, famille est en deuil.
J'engage le coup.
Yeah.